Hier, comme vous l'avez vu, il y a une inversion
exceptionnelle pour le mois de mai
entre le café philo qui ne se tiendra pas le deuxième mardi comme d'habitude et la conférence, puisque la dernière conférence de l'année qui sera donc proposée par Sophie Galabru, qui est philosophe, agrégée de philosophie, dont le premier ouvrage Le visage de nos colères a reçu le prix lycéen du livre de philosophie l'an passé. Et qui viendra donc nous présenter une conférence le 14 mai à 19h sur la famille, faire famille, une philosophie des liens. Vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre Sophie Galabru sur les différents médias, radio, télé. Donc ça, c'est le 14 mai. Et le café philo est donc décalé à la fin du mois de mai, le 28 mai, pour le prochain café philo. Voilà, donc 14 mai, la conférence de Sophie Galabru, et 28 mai, le café philo. Alors Marie-France viendra un petit peu plus tard. Voilà. Donc, y a-t-il des personnes qui découvrent le café philo? Oui. Alors, je me présenterai rapidement. Je suis Nicolas Déré, et j'anime le café philo en alternance avec Laurence Lacroix, un café sur deux. Donc ce soir, c'est moi qui vais officier. Comment ça se déroule? De manière assez simple. Aucun sujet n'est déterminé à l'avance. Le sujet, c'est vous qui allez le proposer là maintenant. On va recueillir les propositions. Ça peut être un terme, une question, bref. Et ensuite, on vote très rapidement à main levée pour savoir de quelle question on a envie de débattre ce soir. Et puis c'est parti pour à peu près une heure et demie de débat. Et on termine vers 20h30, 20h40 avec un pot qui vous est proposé par l'association. De quoi grignoter et de quoi boire. Voilà pour le déroulement. Alors, est-ce que vous avez pensé à vous munir de quelques questions, sujets, que vous voudriez proposer à l'Assemblée, et donc ce dont nous pourrions débattre ce soir ensemble? Et on va recueillir vos propositions. Le dernier café philo, c'était sur la guerre. Qu'est-ce qu'une guerre juste? Ou y a-t-il une guerre juste? Voilà. N'hésitez pas. Oui, madame. Alors, on va vous passer le micro pour que tout le monde puisse...
En suivant, je pense qu'on pourrait dire qu'est-ce qu'un dictateur?
Qu'est-ce qu'un dictateur? Qu'est-ce qu'un dictateur?
Alors, moi, j'en avais une, c'était à l'heure du numérique, l'amour et le romantisme sont-ils voués à disparaître?
À l'ère du numérique, l'amour et le romantisme sont-ils voués à disparaître? À l'ère du numérique, l'amour et le romantisme sont-ils voués à disparaître? Alors, il y a un aspect philosophique, il y a aussi un aspect conjoncturel. Bon, on verra. Donc, qu'est-ce qu'un dictateur? Et l'amour et le romantisme sont-ils voués à disparaître dans notre société?
Philosophiquement, est-ce que la science peut être considérée comme une religion?
La science est-elle une religion? La science est-elle une religion? Question paradoxale. N'hésitez pas. Oui.
L'heure où nous vivons, comment tenir sa place dans la société?
À l'heure où nous vivons, comment tenir sa place dans la société? Comment tenir sa place dans la société?
Alors, bonsoir déjà.
C'est bon pour... Oui, pardon, monsieur, oui. Bonsoir.
Bonsoir. Pourquoi le vertueux est souvent considéré comme opprimant alors que le transgressif comme libertaire?
Pourquoi le vertueux est-il souvent considéré comme opprimant alors que le transgressif est considéré comme libertaire, émancipateur? Alors que le transgressif est considéré comme libertaire ou émancipateur. Donc, qu'est-ce qu'un dictateur ? L'amour et le romantisme aujourd'hui, à l'ère du numérique. Comment tenir sa place dans la société ? La science est-elle une religion ? Et la vertu et la transgression. Je ne sais pas si vous avez d'autres propositions, d'autres envies. Voilà, n'hésitez pas à les formuler. Je balaye l'assemblée du regard. Non ? Non, c'est bon ? Pas de regrets ? Très bien, bon, on va procéder au vote. Alors, vous pouvez voter pour autant de sujets que vous souhaitez. Si tous les sujets vous intéressent, vous votez pour tous les sujets. Je veux bien que tu les rappelles. Okay.
Alors, on entend ? Oui, on entend ? Oui.
Non.
Là, on entend.
Oui, voilà.
Alors, premier sujet, qu'est-ce qu'un dictateur ?
Alors, qu'est-ce qu'un dictateur ? On va peut-être tous les relire, t'as raison. Voilà.
Qu'est-ce qu'un dictateur ? Deuxième sujet, à l'ère du numérique, l'amour et le romantisme sont-ils voués à disparaître ? Troisième sujet, la science est-elle une religion ? Quatrième sujet, comment tenir sa place dans la société actuelle ? Cinquième sujet, pourquoi le vertueux est-il souvent considéré comme opprimant, alors que le transgressif est considéré comme libertaire et émancipateur ?
Alors, le émancipateur, c'est moi qui l'ai ajouté par rapport à votre point de vue. Comme libertaire, si on veut être fidèle à votre...
Alors, qu'est-ce qu'un dictateur ?
Alors, si vous souhaitez voir la question au débat, vous levez la main et puis on fait le décompte de manière très rapide.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.
À l'ère du numérique, l'amour et le romantisme sont-ils voués à disparaître ?
Bon, j'ai bien l'impression que non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attendez, je reprends. Je me suis. Non, on n'a pas un dictateur, non, pas encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. 29 ? Oui, je vous ai compté. Oui. Oui, je crois. 29.
La science est-elle une religion ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Comment tenir sa place dans la société actuelle ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Pourquoi le vertueux est-il souvent considéré comme opprimant, alors que le transgressif est considéré comme libertaire ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Donc c'est ce sujet-là. Pourquoi le vertueux est-il souvent considéré comme opprimant, alors que le transgressif est considéré comme libertaire ? 34.
Très bien, merci. Alors, il y a une petite tradition, mais c'est une bonne tradition philosophique, c'est de vous passer le micro, monsieur, pour savoir quelles sont finalement les raisons pour lesquelles vous, vous proposer ce soir ce sujet qui, visiblement, nous intéresse.
Ben, merci déjà à tous. Hein. En fait, c'est une question qui m'est venue de constat, tout simplement, de la vie de tous les jours, et d'une sorte de petite rengaine, je trouve, depuis très longtemps, qui fait sentir ou percevoir que ce qui peut être, je dirais, une attitude juste, des qualités du cœur, fait partie de... C'est gentillé, mais la vie, c'est dur. La vie, c'est... comment dirais-je, c'est un peu du chacun pour soi. Et que ce sentiment, justement, un peu de communauté, voilà, comme on est tous là, ça demande trop. C'est trop vertueux, justement. Il faut trop prendre en compte, pas que soi-même. Là où, quand on se regarde soi, un exemple très très basique, hein, vous regardez la circulation routière, tout le monde roule, c'est tout bête, hein, mais vous avez des limitations de vitesse. Bon, c'est chiant, c'est vrai. Mais des mises en situation de personnes qui estiment que leur propre jugement, leur propre vision des choses supplantent le reste, se permettent justement ce côté transgressif au bien commun, à l'intérêt général, parce que c'est, si on respecte les règles, c'est être dans un carcan. Et je trouve que c'est, quelque part, c'est dérangeant parce que on a, il y a encore pas si longtemps, hein, vécu une crise sanitaire qui a demandé un effort à tout le monde. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas le faire. C'est la liberté de chacun, mais c'est quelque chose, voilà, qui m'interpelle de ce côté où j'ai des souvenirs comme ça dans certaines émissions de télévision il y a longtemps, dire quitte à mourir, je préfère aller en enfer, on s'amusera mieux qu'au paradis. C'est une phrase qui m'a toujours interpellé en me disant c'est étonnant parce que dans cet aspect très conceptuel, on va dire de paradis, de l'enfer, etc. On a tous envie de passer des vacances plutôt sympathiques, agréables, bienveillants, avec des gens sympathiques, plutôt que de passer peut-être 15 jours dans une boîte de nuit avec de la techno à mort et puis des amphétamines, quoi. Je pense qu'à la fin, on ne doit pas être en bon état. Mais, bon, voilà. C'est vraiment un sujet très vaste et qui m'interpelle assez. Bon, je n'ai pas répondu certainement à...
Non, mais vous avez... Ouais, très bien, vous avez donné les raisons et les motivations.
Merci. Je lance.
Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir d'ores et déjà, mais... Donc c'est la vertu qui nous limite, qui nous encadre. Et on a l'impression que la transgression, c'est un souffle d'air, une sorte de respiration, de parenthèse qu'on s'autorise et qui nous permettrait peut-être de gagner ce qu'on croit être la liberté. C'est bien ce qu'on croit. Alors, on va évidemment travailler sur les termes de vertu, notamment, ce qui ne va pas forcément de soi. Oui.
Oui, je voulais peut-être faire la différence entre l'individualisme et puis le groupe, un petit peu, parce que je pense qu'on a tous envie de transgresser les règles à certains moments parce qu'elles ne nous correspondent pas forcément. Mais peut-être que jusqu'où on peut aller, à partir du moment où on se sent appartenir à un groupe, à une société, à quelque chose qui fait sens pour une majorité de personnes. Parce que je pense qu'il faudrait peut-être définir le terme libertaire, parce que bon, ça a un sens très particulier, libertaire. Après, si c'est juste exprimer sa liberté, c'est autre chose. Et exprimer sa liberté, on en a tous envie, mais on est tous capables aussi de savoir qu'à un moment donné, il y a une limite. C'est le problème de la liberté, d'ailleurs, qu'on enseigne aux enfants, on fait pas ce qu'on veut quand on veut, et qui est, après, de garantir un fonctionnement de société.
Il me semble que dans la question que vous posez et les éléments que vous avez apportés, la vertu est considérée comme une sorte d'obligation morale, sociale, peut-être politique, mais en tout cas morale, évidemment, mais comme une obligation qui s'impose à moi, malgré moi. J'aimerais bien pouvoir rouler à la vitesse que je, que je désire pouvoir voilà, m'affranchir des règles, mais malheureusement, avec vraiment une sorte de malheur de la condition humaine, je suis condamné à vivre avec les autres, aux côtés des autres, et puis il y a des règles de vie commune pour pouvoir cohabiter. Si on revient, je me permets juste pour éclairer et lancer un petit peu la réflexion, à l'origine même de la notion de vertu, il n'y a pas forcément cette notion d'obligation ou de contrainte. Si on prend un philosophe comme Aristote, donc le philosophe grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, dans l'éthique à Nicomaque, de mémoire, donc c'est assez sûr, c'est dans l'éthique à Nicomaque, je crois que c'est au chapitre 6, de mémoire, Aristote fait l'exposé de ce qu'il appelle les vertus, et il commence par une analyse de ce qu'il appelle la vertu. Et il définit la vertu, ça je ne pense pas que ma mémoire me fasse défaut, comme la disposition acquise à faire le bien. Une disposition acquise à faire le bien, alors tous les termes sont importants, mais je ne vais pas non plus trop m'apesantir. Disposition, c'est-à-dire que la vertu, on n'est pas vertueux un jour. La vertu, c'est une sorte de, comment dire, d'habitude, de pli que l'on va prendre à faire tel ou tel type d'action, un peu comme on pourrait avoir des dispositions corporelles suite à une pratique sportive, une activité physique. Excusez-moi. C'était le clin d'œil pour ceux qui avaient assisté à la dernière conférence. Bref, donc le pli donc on a en lien avec une activité physique ou avec telle ou telle disposition. Donc une disposition dans le temps qui dure, qui est acquise, c'est-à-dire que la vertu, elle n'est pas naturelle, on ne naît pas naturel, on le devient. En forgeant qu'on devient forgeron et en agissant de manière vertueuse qu'on devient vertueux, et à faire le bien. Alors, toute la question, c'est quoi faire le bien? Mais dans le faire le bien, dans l'idée grecque, en tout cas dans l'idée aristotélicienne, il y a l'idée de, qui serait peut-être un petit peu anachronique par rapport au monde grec, il y a la notion de bienveillance. De bienveillance à l'égard de soi-même, faire le bien de sa propre existence, faire le bien de celles et ceux avec qui je suis appelé à vivre, donc les autres humains avec qui avec qui je partage l'existence, et puis une bienveillance à l'égard de tout vivant. Et dans le monde grec, en tout cas, la vertu n'est pas vécue comme une obligation morale. C'est pas vécu comme une contrainte, comme une obligation, comme un poids, encore une fois, qui viendrait... on va le voir de je ne sais où, et qui, avec une sorte de doigt un peu inquisiteur, qui me dirait « tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela ». Bien au contraire, la vertu pour un grec, et puis je m'arrête sur cette parenthèse historique et philosophique, elle relève du désir. J'ai le désir de faire le bien pour moi-même et pour celles et ceux avec qui je suis appelé à vivre et à coexister, qu'ils soient humains ou non humains. Et donc finalement, je n'ai pas, pour le dire autrement, la vertu n'est pas forcément vécue comme une contrainte, encore une fois, qui viendrait me limiter dans mes désirs, dans mes volontés, dans mes revendications, mais au contraire comme l'expression pleine et entière et de mon humanité et de ma liberté. Être vraiment libre, c'est finalement orienter sa vie vers un maximum de sagesse, ça serait orienter sa vie vers un maximum de vertu, c'est-à-dire orienter sa vie vers un idéal de bienveillance ou d'empathie, si on voulait employer un terme plus contemporain. Et la question, c'est, est-ce que Aristote se met le doigt dans l'œil, ce qui est possible, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas en train de rêver une humanité plutôt que de décrire la réalité de la condition? Peut-être que la réalité de la condition, et c'est à mon avis ce qui motive votre question, c'est que, bah, si vraiment on était tous animés par cette disposition acquise à faire le bien, comme dit Aristote, on n'aurait pas l'expérience quotidienne qu'on a, c'est-à-dire de personnes qui effectivement s'affranchissent des règles dès qu'ils le peuvent et qui cherchent à couper les fils dès qu'ils le peuvent et à déroger aux règles communes dès qu'ils le peuvent. Est-ce que c'est pas un monde utopique dans lequel finalement Aristote nous berce? Ou est-ce qu'au contraire on peut penser à la vertu comme quelque chose qui serait vraiment l'expression de la liberté? Et là, on a vraiment, voilà, on a dans cette origine grecque, on a une acception de la vertu, un sens de la vertu qui n'est pas en lien avec l'idée d'obligation. Ce qu'on va perdre, je me permets juste, encore une fois, 30 secondes de garder le micro, ce qu'on va perdre, si on fait un très rapide panorama historique, avec la bascule, on va dire, du monothéisme, avec la bascule du monothéisme, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, la vertu prend un sens d'obligation, de commandement, de rappel à l'ordre. En tout cas, ça peut être vécu comme tel. Voilà, excusez-moi, mais c'était juste pour donner un petit ancrage historique à cette question. Alors, madame.
J'avais demandé la parole justement pour parler ce que vous venez de dire en dernier lieu.
Allez-y.
La vertu, pour moi, ça a une connotation religieuse. Alors que, au jour d'aujourd'hui, je ne parle pas du temps d'Aristote, je comprends, mais on est près de 3000 ans après. Donc, voilà, c'était un petit peu ce qui me gêne, moi, dans ce mot de vertu. Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire, comment il est transgressé, peut-être, par rapport à Aristote. Et puis, le deuxième terme dans la vertu est la transgression. Pour moi, la transgression, c'est vrai que ça ressemble à la liberté. Mais ce n'est pas une transgression de transgresser, comme disait le monsieur, sur les routes, à une vitesse ou autre. Moi, je viens d'une génération où j'ai connu 17 000 morts sur les routes. Je trouve que c'est bien qu'on ait effectivement réduit les vitesses parce qu'on doit vivre ensemble. Ou alors, partez sur une île déserte et puis faites vos règles. Mais de toute façon, nous sommes liés, que vous le vouliez ou pas. On vit en fonction avec les autres.
Moi, je voulais revenir sur une notion. En fait, je considère que la satisfaction qu'on tire de la vertu, entre guillemets, de cette idée de faire le bien, elle est d'autant plus durable que la transgression qui est plus... éphémère, en fait, parce qu'il y a toujours un retour aux règles, de toute manière, qui, comme madame a dit, sont obligatoires. Enfin, on est obligé de vivre en société, donc les règles sont indispensables à la vie en communauté. Mais du coup, je pense que justement, cette disposition à faire le bien, elle est... Déjà, on en tire beaucoup de satisfaction. Après, ça dépend de... on va dire que ça dépend de l'individu aussi, mais c'est d'autant plus satisfaisant et c'est d'autant plus durable. Enfin... Parce qu'on se fait du bien à soi, on se fait du bien aux autres. Donc, alors que la transgression, en fait, ça ne nous est même pas profitable dans la plupart des situations. Voilà.
Ah, donc tu intègres un élément temporel. Ouais. D'accord. On reviendra sur madame, sur ce que vous avez dit, sur l'ancrage, en tout cas la résonance religieuse du terme. Effectivement, aujourd'hui, c'est un terme qui est connoté, qui est lourd de... qui est le groupe d'une histoire, bien sûr.
Oui. Il me semble que la question pose aussi le problème du consentement à la règle. Je veux dire par là que on peut accepter ou consentir à une règle à partir du moment où ses fondements ou son élaboration facilitent ce consentement. Et notamment... Quand dans les fondements, il y a un certain nombre des valeurs, par exemple, auxquelles, la collectivité, ou en tout cas, on adhère. Par contre, si cette règle se fonde sur des valeurs que, personnellement, je ne reconnais pas, à ce moment-là, il n'y a plus de consentement de ma part à cette règle, et je suis amené à la transgresser. Et des fois, je peux arriver à le valoriser socialement, par exemple avec la désobéissance civile ou d'autres choses de cet ordre-là. Et effectivement, à partir du moment où cette règle, qui pour moi est mal, que je ne reconnais pas parce que mal fondée, je reprends ma liberté en la transgressant.
Ah ouais. Oui, pour reprendre ce que vous disiez sur la période de la pandémie, du Covid. C'était l'un des axes, je veux dire, d'argumentation. Enfin, si tant est qu'il y ait une argumentation, mais en disant, moi, je ne reconnais pas la réalité, ou soit la réalité du virus, ou en tout cas la légitimité des règles, des gestes barrières, les tous anti-Covid, les masques, etc. Donc, je me réapproprie ma liberté, ou j'affirme ma liberté, effectivement, en transgressant une règle qui n'est pas la mienne. Donc, alors, on voit bien, quand même, j'ouvre la question, hein. C'est... est-ce qu'on peut faire société avec ce type de logique où chacun finalement se donnerait le droit de transgresser toute règle qu'il ne reconnaîtrait pas comme étant la sienne? Alors oui, il y a la désobéissance civile, mais il y a aussi
des valeurs.
Oui, enfin des valeurs. Est-ce qu'on peut faire société comme ça?
La désobéissance civile, elle est comprise dans les lois.
Ah, ah. Bon. Oui, enfin, certaines lois.
Bonsoir. Donc moi, je ne suis pas encore au stade de la désobéissance civile dans le sujet, même si je trouve que dans certains cas, c'est indispensable. Moi, je suis en train de penser à un problème de maturité, c'est-à-dire qu'un enfant, je pense à un enfant, au mot désobéissance, qu'est-ce qui fait un enfant? Il va désobéir et s'il n'est pas puni, il est content. Et est-ce que, justement, dans notre comportement au quotidien, quand on va réussir à gagner deux places dans une file, est-ce que ça ne tient pas de la maturité, de la désobéissance, et on se dit, on n'a pas été puni, on a grillé un petit feu, c'est rien.
On est content.
On est content. Je ne sais pas si on est content, mais voilà, ça manque de maturité, quoi. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire.
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, ma réflexion, je pense que la vertu n'est pas autant détestée que ça ni aimée, hein, et puis la transgression non plus. Ça dépend juste dans la société dans laquelle on se trouve. Hein. Il y a eu, par exemple, des choses religieuses à l'époque, quand il y avait des églises, les saints étaient admirés, hein, parce que ça représentait la vertu. Et c'est pas pour cela que les gens faisaient exactement, mais c'était un idéal à suivre. Et ça n'a pas empêché qu'il y ait la Révolution française pour couper la tête, brûler les églises, tout ça. Et parce qu'on est parti dans une autre vision. Et cette vision qui nous a emmenés vers d'autres vertus. Il y a des philosophes qui avaient d'autres vertus, qui ont été suivies, qui ne sont pas mauvaises non plus. Et je ne crois pas du tout que ces gens auraient été détestés. Je crois que c'est juste une question d'époque. Là, par exemple, on voit la démocratie qui est en danger aujourd'hui, parce qu'on était sur des vertus apparemment qui ne plaisent plus aujourd'hui. On admire plus les dictateurs, parce qu'il y a un semblant de représentation de la loi. Parce qu'on a l'impression dans les démocraties que la loi n'est plus suivie, que les gens font un peu n'importe quoi. Et il y a une manière, on sort de ça, pour sortir des sangs de ça, les gens croient qu'il faut passer à une forme de dictature pour remettre la loi en place. Donc moi je crois que c'est juste une question d'époque dans laquelle on vit. Hein. Ils ne sont ni détestés ni aimés. Hein. C'est juste une question de valeurs qu'on prône à un moment donné, qui sont aimées ou détestées à un moment donné. On peut les aimer au départ et puis les détester après. Et pourquoi pas revenir sur ces mêmes valeurs qu'on avait détestées avant. Voilà. C'est l'être humain qui est comme ça.
Merci.
Moi, je vous laisse la parole, oui. Avant de la reprendre, oui.
En fait...
Bonsoir.
Bonsoir, pardon. Je trouve que le mot vertu, c'est un mot...
Mettez bien votre micro pour que tout le monde...
Ah oui, hein. Pardon. Je veux dire, c'est un mot qu'on n'entend plus du tout. Il est obsolète, ce mot-là. Il est... peut-être pas en philosophie tout ça, mais je veux dire, pourquoi parler de vertu à notre époque? On n'entend plus parler. C'est un mot... qui emploie le mot vertu?
Si on regarde.
Il n'est pas moderne du tout, ce mot-là.
Alors, moi, il me semble, mais je vous soumets cette idée, il me semble effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, madame, effectivement, on a l'impression que le mot vertu, c'est un mot un peu vieilli, un peu vieillot même. Un peu désuet, obsolète, disiez-vous. Voilà. Un peu. Tu nous saoules avec ta vertu. Mais il me semble que c'est aussi, pour reprendre un peu, enfin, c'est votre intervention qui m'y a fait penser, c'est que peut-être que la question de savoir si la vertu opprime et la transgression libère, c'est peut-être le symptôme d'une époque, ou du moins, d'une époque, je ne sais pas, mais en tout cas d'un type de d'idéologie qui est liée à une évolution culturelle. J'entends par là, enfin, moi quand je vous ai entendu, monsieur, poser la question, directement j'ai pensé à certains slogans de mai 68, où on voyait, je n'ai pas vécu en 68, les images que j'ai pu en voir et ce dont on a pu me faire récit, en gros, on voit sur les murs des slogans que vous connaissez comme moi, « Jouir sans entrave », « Il est interdit d'interdire ». Il est interdit d'interdire. Et donc, c'est vraiment ça. C'est, en gros, c'est la naissance, alors pour le pire et pour le meilleur, mais peu importe ici, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur, de ce qu'on peut appeler au sens neutre l'individualisme, c'est-à-dire l'individu qui se revendique comme individu. Je ne suis pas simplement membre d'une classe sociale, d'une famille, d'une nation, d'un pays, de je ne sais quoi. Je suis un individu, moi, voilà. Et cet individu, il a des droits à faire valoir, des revendications qu'on doit entendre. Et j'ai un droit au plaisir, j'ai un droit à la jouissance. Je dois suivre la logique de mon désir. Et quiconque viendrait s'interposer dans la logique de mon désir sera soit un dictateur, à l'époque, Gérald de Gaulle est présenté comme quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, etc. Donc, soit comme un dictateur, soit comme quelqu'un, effectivement, qui rebat les oreilles avec son discours de vertu, d'obligation, de devoir, etc. Et donc, moi, je pense que, effectivement, si la vertu peut sembler aujourd'hui un terme désuet et obsolète, c'est au regard de la société individualiste, au sens neutre, hein, au regard de la situation individualiste dans laquelle on vit. Effectivement, pour un individu qui désire, encore une fois, affirmer sa puissance et son désir, sa volonté de vivre telle qu'il l'entend, parler de vertu, parler d'obligation, parler de respect, parce que c'est quand même bien ça hein, qu'on entend dans vertu, le respect de soi-même, le respect d'autrui, le respect de la règle, ça peut sembler comme étant quelque chose de liberticide, en tout cas une sorte d'entrave, d'obstacle à la réalisation de soi-même. D'où le côté peut-être soit vieillot du terme, désuet, soit, comment dire, contraignant. La vertu, effectivement, est passée comme une sorte d'oppression. Et comme vous disiez tout à l'heure en lançant le sujet, quelqu'un qui chercherait à être vertueux, c'est quelqu'un qui, on dirait, mais t'es un petit peu, comment dire, t'es un peu coincé, libère-toi, émancipe-toi, enfin, allez, vis tes désirs. Je dis non, mais moi le feu je m'arrête, moi machin, enfin la loi je respecte, etc. Mais je pense que c'est peut-être l'expression d'une société dans laquelle l'individu finalement devient le pôle central. D'accord. On se pense d'abord comme individu, me semble-t-il, hein, peut-être que je me trompe, plutôt que comme citoyen ou membre d'une entité collective. Voilà. Excusez-moi, je vous ai un petit peu assommé.
Moi, j'ai pas particulièrement l'impression que la vertu enfin, le mot est peut-être obsolète parce qu'on l'utilise plus aujourd'hui, mais le message, en tout cas, derrière, et l'idée principale qu'elle transmet, eh ben, elle est toujours aussi présente dans notre société. Alors oui, on l'exprime pas, mais ça veut pas dire qu'à l'échelle de l'individu, elle est pas présente. Enfin, de manière générale, c'est rare de voir des gens griller les feux rouges. Ça arrive, mais c'est quand même occasionnel, on va dire. Et oui, et enfin, je veux dire, il y a même si on transgresse certaines règles de temps en temps parce qu'on les estime pas presque, j'ai envie de dire fondamentales. Enfin, et ben, pour moi, la vertu, elle est encore présente dans nos sociétés. Elle est pas du tout obsolète. Le mot oui, l'idée non.
Ah. Et puis après, il y a monsieur.
Oui, pour revenir sur l'individualisme, qui est considéré a priori comme quelque chose d'une valeur négative, je dirais. Moi, je préfère parler d'individualité. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, monsieur, que c'était un peu cyclique, qu'il y avait des retours à des croyances qui font qu'on balaye certaines façons de vivre ou certains régimes, etc. Je me dis que, est-ce que, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que le fait d'être dans une société, dans des sociétés où l'individualisme, où l'individualité est première, est-ce que c'est pas une évolution normale, en fait, aussi de l'humanité ? À savoir que, certainement que dans des temps plus lointains, il y avait besoin plus du groupe pour survivre, ou des choses comme ça, de manière historique et même physiologique, et que tout doucement, les personnes ont pris conscience qu'elles étaient différentes et qu'elles pouvaient exprimer des choses différentes sans forcément nuire aux autres membres du groupe, d'ailleurs, d'où les sociétés qui mettent des lois, qui mettent des règles, parce que je pense qu'on peut affirmer son individualité sans nuire aux autres. Et je pense que dans la temporalité historique, la psychanalyse est quand même fondatrice de prendre en compte l'individu, non pas au sens « c'est moi que v'là et poussez-vous là que je m'y mette », mais en tant que le droit d'être différent et d'être quelqu'un d'une unité unique, en fait, par rapport au groupe. Je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière là-dessus. Alors, le problème dans la société, c'est peut-être de comment intégrer la dimension individuelle sans que ça nuise au groupe, sans qu'on ait l'impression que ça va nuire forcément au groupe, parce que n'être qu'un élément d'un groupe, c'est pas forcément à l'échelle d'une vie, on vit plus longtemps maintenant aussi, c'est pas forcément gratifiant. On est rien, on est un numéro, on est un atome parmi tout un tas de trucs, mais on ne se réalise pas. Et le recul des religions aussi, dans certaines sociétés, mais oui, voilà. A priori, le recul des religions, et voilà, fait qu'on a quand même cet instinct de vie qui est aussi l'instinct de se réaliser individuellement, mais sans pour ça nuire au groupe ni empêcher de faire société.
Oui, oui. Une sorte d'accomplissement de soi.
Moi, je pense qu'il y a une différence entre valeur et puis règle. On peut avoir des valeurs, et c'est des valeurs qui, à mon avis, c'est des valeurs qui permettent de faire le bien. Hein? Quand on dit effectivement la valeur de je désobéis, parce que c'est parce que mes valeurs sont des valeurs de paix. Hein? À ce moment-là, c'est plus un manquement. On sort plus des clous. On défend une valeur. Et je pense aux milliers de militants qui se battent, qui font en sorte pour que les gens soient bien entre eux, hein, et ils font le bien, que tout le monde fasse le bien. Je pense que ça, c'est une valeur. Et c'est ça qui va faire société. Hein, plus qu'un individualisme qui est réel, qui est peut-être une demande, hein, mais qui ne va pas faire société, à mon avis.
Je me permets juste de rebondir sur votre distinction et votre remarque. Effectivement, je pense que la distinction que vous introduisez entre la valeur et la règle, elle est ici vraiment fondamentale et très éclairante. La valeur, elle me concerne. La valeur, c'est ce à quoi moi, j'aspire. Et effectivement, je peux transgresser, c'est ce qui a été évoqué quand tu as évoqué la question des obéissances civiles, je peux transgresser la règle au nom d'une valeur qui, à mes yeux, je peux me tromper, mais qui, à mes yeux, relève de la vertu. Effectivement, quelqu'un qui est, je parle, Boris Vian, le déserteur, vous voyez, c'est la chanson de Boris Vian qui vient à l'esprit, Monsieur le Président, je vous écris une lettre, ça vous lira peut-être, etc. Ben voilà, vous pouvez m'arrêter, j'aurai pas d'armes, mais moi, je ne vais pas faire la guerre, je veux pas avoir du sang sur les mains, je ne veux pas participer à la boucherie institutionnelle que vous organisez avec vos copains du camp d'en face. Et donc, finalement, je transgresse la règle, mais parce que je cherche à être vertueux. Et donc, finalement, la valeur, elle a ce caractère, j'allais dire, elle a cette dimension éthique ou morale. Alors que la règle, elle relève d'un consensus. La règle, elle relève au mieux d'un consensus ou d'un accord au sein d'une communauté, une règle au sein de n'importe quelle communauté, hein. On joue au foot, il y a des règles. Au sein d'une famille, il y a des règles. Au sein d'un établissement scolaire, il y a des règles. Au sein d'un État, il y a des règles. Mais ces règles-là, et la règle, pardon, s'accompagne d'une sanction possible si elle n'est pas respectée. Sanction soit morale, soit sociale, soit civile. Mais la règle, en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. La règle, elle n'est pas du côté du bien, et la transgression n'est pas forcément du côté du mal. C'est-à-dire que si on se donne des règles, je prends un exemple neutre, volontairement neutre, pour jouer au foot, pour faire une partie de foot, il y a des règles du jeu, mais ces règles ne sont pas bonnes en elles-mêmes. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Elles permettent simplement au jeu d'avoir lieu. Et si tel joueur commence à ne pas respecter les règles du jeu, je ne sais pas s'il y a touche et que vous dites non, il n'y a pas touche, et si vous commencez à prendre la balle à la main alors vous êtes censé jouer au football, mais en fait c'est juste que le jeu est impossible. Mais en soi, la règle elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle permet simplement de pratiquer un sport qu'on appelle le football. Et puis je vais changer de règle, je vais jouer au basket. Bon, ben voilà. Et donc finalement, la règle d'un État, d'une communauté, si on veut prendre cette analogie, en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle permet
à un moment donné, à une société de se maintenir, de vivre ensemble. Et certaines règles peuvent, je pense qu'on sera tous d'accord, être jugées comme évidemment mauvaises. Les lois discriminatoires dans le sud des États-Unis, Alabama, etc., sont évidemment mauvaises au sens où elles renvoient une catégorie de la population à des citoyens de second ordre, ayant moins de droits, etc. Et lorsque Rosa Parks refuse de céder sa place à cet homme blanc dans ce bus de Montgomery en 1954, dans les années 50, et ben Rosa Parks, elle transgresse la règle, puisqu'elle doit, selon le règlement intérieur de sa compagnie de bus, céder sa place à un homme blanc qui la lui demande. Elle transgresse, mais c'est en transgressant qu'elle est la plus vertueuse. Et c'est en transgressant non seulement qu'elle est la plus vertueuse, et c'est en transgressant qu'elle affirme sa liberté, et de tous celles et ceux qui partagent sa même condition. D'où le boycott, Martin Luther King et la marche civique.
C'est en cela, pour moi, que c'est contraire à la vertu.
C'est pour ça qu'effectivement...
Les vertus que défendaient les blancs...
Valeurs et règles, c'est pas la même chose. Alors néanmoins, quelqu'un qui, au moment du Covid, je trouve que c'est un très bon exemple, transgresse la règle de sécurité commune, est-ce qu'il fait preuve de vertu? Est-ce qu'on peut, voyez, enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas non plus des règles dont on pourrait dire, voyez, si je veux essayer de problématiser, que bah, heureusement qu'elles sont là pour qu'on puisse simplement vivre en sécurité les uns avec les autres?
Bon, je voulais rebondir sur une dame qui avait parlé de maturité. Alors la maturité, évidemment là c'était sur la route, hein, donc les voyages qui transgressent par manque de maturité, qui transgressent la loi, avec des risques d'avoir des accidents quand même, hein, parce que ceux qui arrivent en face n'a rien demandé. Et moi je parlais plutôt de la maturité d'un peuple. Hein. Par exemple, pendant longtemps, les peuples étaient soumis à des religions. C'était pour encadrer un peu la population, la populace, qui ne pouvait pas réfléchir. Hein. Il n'y avait que les aristocrates qui avaient cette possibilité-là. Et évidemment, avec les idées des Lumières, tout ça, on a vu que, bon, ça pouvait être à la portée de tout le monde. Et ça a permis, par exemple, à la France d'avoir une certaine maturité de la population. C'est une maturité qui a permis aux bourgeois, par exemple, de faire la révolution. Et puis, bah, aujourd'hui, bah, tout le monde en profite. Hein, donc, on a évolué. Je pense que une société évolue. Il y a une vertu, comme j'avais dit tout à l'heure, une vertu des saints. Et puis après, il y a les idées des Lumières qui sont arrivées, les règles. Et là, on s'est rendu compte que ce qui mettait les gens dans une forme de manque de réalisation de soi, finalement, on pouvait le transmettre avec les idées des Lumières, on pouvait avoir une démocratie pour pouvoir permettre à la population de se réaliser. Ce qui n'était pas une mauvaise chose, puisqu'on a eu beaucoup de créativité, il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont construites grâce à cette vision de la vie, qui n'avait rien à voir avec ceux d'avant. Et voilà, donc c'est juste une question de maturité de la population. Quand on arrive à un certain moment où on a assez de connaissances pour pouvoir passer à autre chose, on arrive quand même on commence à contredire ou à remettre en cause tout ce qui a toujours été dit avant. On a des sociétés, par exemple, les sociétés du Nord, comme la Finlande, la Suède, tout ça, qui, deux petits, à l'école, ils apprennent les règles et ils n'ont pas tendance à vouloir les remettre en cause, puisque c'est ce qui fait que cette société-là fonctionne très très bien, parce que les gens respectent le feu rouge. Hein. C'est-à-dire que quand on va en Hollande, ou bien, je ne sais pas aujourd'hui, hein, peut-être, ça peut être changé, mais moi je me souviens à l'époque, les gens respectent les feux, personne ne traverse quand c'est rouge, hein, c'est pas comme en France. Et voilà. Et les gens ont acquis une certaine maturité, donc finalement ils vont vivre avec ces règles sans que ça pose de problème. Voilà. Et peut-être plus tard, on va passer à autre chose. Et voilà. Une fois qu'on a acquis les règles qui ont été signalées par les dirigeants ou bien, je sais pas, par une philosophie à une époque, à un moment donné de la vie. Voilà, voilà, c'est ce que je pensais.
Donc finalement, le cœur de la réflexion, ça serait l'éducation. C'est-à-dire que c'est par l'éducation qu'on comprend que être vertueux, c'est-à-dire respecter les valeurs de respect dues à autrui, ça n'est pas contraire à ma liberté. Vous avez cette phrase de Condorcet, vous savez, le philosophe révolutionnaire, la révolution, c'est l'éducation. La révolution, c'est l'éducation. c'est pas de couper des têtes sur la place de la, place de la Révolution ou de prendre la Bastille, c'est d'éduquer, d'éduquer les gens. Ouais. Moi, j'aurais des choses à dire, mais je vous laisse la parole.
Retour à l'expéditeur. Ce qui est intéressant dans tout ce que j'entends aussi, c'est en fait, c'est la notion de la perception. En fait. J'entends beaucoup aussi vis-à-vis de la religion ou n'importe. Je crois qu'en fait, il faut pas, ce que vous disiez justement, et c'est très juste par rapport à la pensée d'Aristote, c'est que je pense que l'utilité d'Aristote a été de donner une explication, pas une définition, mais une explication aux vertueux dans son sens d'idéal. Et l'idéal, c'est quelque chose d'immuable parce que c'est quelque chose d'intangible et auquel chacun peut se rattacher. Par contre, la perception de cet idéal, elle est ce qu'on en veut et ce qu'on veut en faire. Et quand j'entendais par rapport aux religions, n'importe, c'est de voir ce que les religieux ont fait de la vertu comme mainmise sur la pensée des gens. Parce que quand on lit, on étudie tous les grands penseurs religieux, mais je parle religieux depuis que l'humanité est humanité. Hein. Il y a toujours eu cette notion d'élévation, et que la transgression n'a jamais été perçue comme quelque chose justement de destructeur, mais d'émancipateur vers cet idéal. Mais comment fait-on pour dominer ? Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est de voir en fin de compte à quel point les philosophes, des sages, des ermites ou n'importe, ont amené, et toujours, on a toujours, on parlait de Rosa Parks, Martin Luther King, c'était un homme de foi, mais un homme de foi en l'humain, Gandhi, et tous ces personnages-là, quand je parlais de vertu aussi et de vertueux, ils sont bons de les sortir de leur tiroir quand il y en a besoin, et après on les range. Et ça, c'est très dommage, parce que justement, c'est que ça, je repensais justement à j'ai appelé son prénom, pourtant, Monsieur Badinter.
Robert Badinter.
Voilà, Robert Badinter, qui avait fait ce discours de force, conspuant et hurlant sa rage en entendant justement les huées qu'il y avait eu justement quand Mitterrand avait rendu hommage. Bon, je ne sais pas si vous voyez.
Ah oui, c'est l'hommage à Bérégovoy.
Voilà.
Ouais.
Et là, cet homme parlait justement d'une vertu qui transcende en fin de compte les perceptions que chacun peut avoir, qui amène à ce transgressif qui ben il allait au-delà des choses. Et ce vertueux, il est dans cet au-delà. Et c'est de comprendre, et ça qui m'a toujours interrogé, c'est comment on a réussi, en fin de compte, à transformer, du moins à ceux qui avaient cette volonté de pouvoir, je vais prendre un autre personnage que je pense que tout le monde connaît, M. Richelieu, homme d'église, mais surtout homme de pouvoir, qui s'est servi justement de l'apparence d'un système que l'on a créé, là où la vertu, comme Aristote, même aussi Épicure, où on a un peu tendance, nous peut-être dans nos sociétés, à écourter les grandes phrases, par exemple, à la dernière fois que j'étais venu par rapport à connais-toi toi-même, mais connais-toi toi-même, c'est un peu plus long que ça. Et c'est ça que je trouve intéressant de voir justement comment on a réussi à déplacer les curseurs du pouvoir dans la notion, en fin de compte, de la liberté, alors qu'avant, c'était celle de la vertu. À qui, quel intérêt, et à qui, ça, justement, ces intérêts servent. Je crois que j'ai encore complexifié le truc.
Voilà. Merci.
Débrouillez-vous avec.
Moi, je conserve de votre intervention une idée, c'est que la vertu... vous l'avez évoqué dans le cadre, dans les mains des religieux, mais pas forcément, mais que la vertu, ça peut être aussi un instrument du pouvoir, un instrument de mainmise, un instrument de manipulation, une sorte de mystification, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que être vertueux, c'est ça, mais parce qu'en fait, comme tu vas respecter la règle qui est prétendue être sacrée ou venir de je ne sais quelle source transcendante, ben en fait, tu vas te tenir à carreau, et puis moi, je vais garder, ça sera le statu quo, puis moi, je vais garder mes prébendes, je vais garder mes privilèges, je vais garder ma situation, et puis toi, tu seras à ta place. Et donc, effectivement, enfin, c'est assez nietzschéen ce que vous avez dit, si on veut faire des références de références, mais peu importe, c'est que effectivement, la vertu, finalement, c'est un outil dans les mains du pouvoir pour maintenir le peuple ou celles et ceux qui sont soumis à leur place, en disant « c'est pas à moi que t'obéis, c'est à la vertu ». Et comme tu ne risques... Moi, tu pourrais désobéir. Tu pourrais entrer en révolution, tu pourrais te révolter, tu pourrais manifester, mais oseras-tu manifester contre Dieu ? Oseras-tu manifester contre la parole sacrée ? Oseras-tu manifester contre tel ou tel commandement qui te dépasse, évidemment ? Mais en fait, non, tu n'oseras pas, donc je garde ma situation. Et donc, effectivement, la vertu peut être un instrument du pouvoir lorsqu'elle est manipulée à des fins, j'allais dire, d'intérêt social, pour le dire de manière très large. Donc une sorte de mystification. Pour illustrer mon propos, quand est-ce qu'on dit qu'un enfant est sage ? En fait, un enfant sage, c'est un enfant qui se tait, qui reste à sa place et qui fait bien ce qu'on lui a dit de faire. Un élève qui est sage, c'est celui qui est au fond à droite, il fait bien son devoir, il ne bavarde pas, il écoute son cours, il rentre chez lui et il mange ce qu'on lui a donné à manger. Point. Voilà. C'est ça un enfant sage. Et finalement, on a l'impression que la sagesse de l'enfant, c'est de la servilité.
Mais c'est pas un individu à ce moment-là.
Mais c'est pas un individu.
Il renonce à lui-même.
Voilà. Alors peut-être qu'un. Voilà. Monsieur.
Oui, j'ai retenu votre exemple du football, mais on peut l'étendre au rugby aussi.
Oui.
On vit en groupe, en société. C'est comme ça, on n'a pas le choix, on est dans une société. Et en fait, je pense qu'une partie des règles nous apporte la sécurité et la liberté de vivre, sachant que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, c'est ce que disait mon grand-père avant 68. Je me dis, les plus beaux matchs de rugby qu'on ait vus pendant la Coupe du Monde, c'est ceux où les règles étaient strictement respectées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coups, pas de coups bas, pas de tricherie. Et là, c'était magnifique, c'était du rugby. Ce qui m'interpelle, c'est quand on parle de valeur individuelle qui me permet de m'affranchir des lois de la République ou de valeurs idéologiques qui fait que je ne respecte pas parce que ça ne me plaît pas, je n'estime. Ça me pose un problème quant à l'équilibre de la société parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de limite à rien. On peut aller à toutes les violences. Si je suis plus violent que mon voisin, j'aurai plus de liberté que lui. C'est le canon qui parle. Ça m'interroge beaucoup de savoir à quel moment, dans une démocratie, j'imagine qu'on y est encore, les règles permettent à chacun de s'exprimer individuellement. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on n'y arrive pas. Quand on vit sur une île déserte, mais ce serait très dur, on n'y arriverait pas non plus, je crois. Et ça me questionne beaucoup de savoir où est la limite qu'il faut mettre à la liberté. Je n'aime pas le mot vertu non plus, parce que moi j'ai fait 68, donc vertu, on l'a enterré à ce moment-là. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, vertu. Par contre, le respect des règles, la conduite avec le respect des autres, pour moi ça me parle beaucoup plus. Et je pense que c'est un équilibre difficile à trouver dans le monde où on est aujourd'hui. Et qui fait respecter les règles, sachant que si on n'a pas un exemple de respect des règles, pourquoi les respecterait-on dans le monde un peu inférieur ?
Merci.
Moi, je pense aussi que quand il y a des gens qui vont contre certaines règles, en fait, aussi, le pouvoir, il nomme leurs actions comme, par exemple, l'éco-terrorisme. C'est une façon de dévaloriser un mouvement qu'on peut estimer vertueux. Tout ce qu'on voit, on peut se dire qu'on est mal parti. Mais le gouvernement, en fait, il qualifie avec un terme très méprisant terroriste, quoi. Alors que terroriste, c'est pas quand vous vous battez pour une cause qui vous paraît juste, qu'on vous qualifie de terroriste, c'est quelque chose de très difficile à accepter.
Ouais. Donc, éco-terroriste, ça va pour tout le monde pour la référence, oui. C'est une référence du ministre de l'Intérieur par rapport à certains militants des soulèvements de la Terre.
Ça marche.
Oui.
Oui, moi je rejoins
le mot vertu me gêne, parce que pour moi c'est connoté aussi de pouvoir religieux.
Ouais.
On a quand même gagné à être dans un état laïque, d'avoir une école laïque. Et après, d'une manière, pour rire un peu, je me disais, mais au fond, c'est quoi un homme vertueux ? Et puis plus loin, je me disais, mais c'est quoi une femme vertueuse ? Comment on l'habille, cette femme vertueuse ?
Ah, tiens, ouais. C'est très, très juste.
Et puis, si elle a un amant, elle n'en reste pas moins vertueuse ?
Et d'ailleurs, merci.
Si ça pose aucun problème, etc., tout le monde est heureux, moi, ça me pose... Qui définit en fait la tenue vertueuse, le comportement sexuel vertueux.
Et d'ailleurs, on parlait, enfin j'espère qu'on ne parle plus encore, de femmes de petites vertus. Et on ne parle pas d'hommes de petites vertus. C'est très juste. Alors, regarde l'idée, hein, vertu, pouvoir, mainmise, enfin en gros maîtrise des âmes, et puis la vertu comme notion peut-être genrée, quand même, c'est une mise au pas du corps des unes et pas des autres.
Oui, mon intervention était en dehors de ça, mais enfin, je crois qu'il faut reprendre ça en se posant la question de quel est le pouvoir qui effectivement utilise ce vocabulaire. Et à quoi est-il destiné ? Moi, je voulais revenir, parce qu'il me semble qu'on a passé un bon moment sur la notion d'individualité dans ce questionnement. Et autant, me semble-t-il, on peut défendre l'idée de l'individu agissant, actif dans son monde, mais il me semble que cette idée immédiatement appelle l'autre, qui est celle de la reconnaissance de l'autre. Je veux dire, on va faire société si les individus agissant effectivement reconnaissent l'autre, lui ouvrent une place, ou lui reconnaissent une place. La notion de partage, d'échange, doit alimenter le faire société des individus agissants.
Donc sur la réciprocité, c'est ça ? Je veux bien reprendre la parole, mais sans vous, que personne ne soit frustré. Sur l'ancrage religieux, juste un petit... j'entends moi aussi, effectivement, je suis comme vous, c'est un terme qui sonne comme... Voilà, qui est quand même très, très marqué, qui est très lourd de sens. Effectivement, alors l'ancrage religieux du monothéisme, à l'inverse de ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur Aristote, ça renvoie à la vertu du côté du devoir, du commandement, finalement, d'une sorte d'obligation qui s'impose à moi, malgré moi, et qui vient... finalement, maîtriser mon âme, maîtriser mon corps, me rappeler à la règle, etc. On voit, enfin, c'est les 10 commandements, et notamment les commandements moraux des 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne donneras point, etc. Mais alors, ce qui est assez étonnant, et je vais un peu rebondir sur la distinction entre la religion et les religieux, c'est que dans le texte même de la Genèse, qui est commun aux trois monothéismes, il y a une sorte d'appel ou d'éloge de la transgression. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne sont pas des humains dès lors qu'ils n'ont pas encore péché, dès lors qu'ils n'ont pas encore fauté, dès lors qu'ils n'ont pas encore désobéi à l'interdit divin. C'est-à-dire que ce qui marque l'entrée d'Adam et Ève dans l'humanité et ce qui nous définit en tant qu'humains, c'est précisément la transgression. C'est je vous interdis de céder à la tentation, je vous interdis de croquer le fruit défendu, et qu'est-ce que je fais ? Je croque le fruit défendu,
et je m'affirme dans mon humanité. Alors une humanité qui est marquée par sa finitude, qui est marquée par les limites de sa condition. Tu enfanteras dans la douleur, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, tu vas mourir, enfin bref, voilà, enfin hop, je te chasse du jardin d'Éden. Mais précisément, c'est ça, être humain. Être humain, c'est dire non, être humain, c'est transgresser, être humain, c'est se rafranchir de la règle ou de l'interdit pour s'affirmer dans son individualité, dans l'individualité agissant, de sorte que finalement, dans le texte même religieux, je vais vous laisser la parole dans un instant, dans le texte même religieux, finalement, il y a comme s'il y avait un appel à la transgression. Et si on veut entrer un petit peu dans le détail, cet appel à la transgression, il ne vient pas de nulle part, dans le texte même, il vient de la présence du serpent. C'est bien le serpent qui est tentateur, qui disait « Mais allez-y, vous allez voir, c'est trop bien, etc. etc. » Enfin, il me dit mieux que moi. Mais finalement, ce serpent-là, dans la Genèse, c'est bien Dieu qui l'a mis. Finalement, c'est bien Dieu qui a voulu qu'on lui désobéisse et qu'on s'affranchisse de la règle par la transgression. Puis j'aurai un dernier moment, puis après, je vous laisse la parole et me contredire avec grand plaisir. C'est que dans la religion, en tout cas dans la religion chrétienne, il y a les 10 commandements, mais il y a une révolution spirituelle qui s'opère. Attention, je ne me transforme pas en prêtre. On est dans un établissement laïque, etc. Mais je suis professeur de philosophie, mais il y a quand même une révolution spirituelle qui s'opère. C'est-à-dire que c'est Saint Paul, hein. Saint Paul, mais il y a les 10 commandements, mais il y en a un 11e, le commandement. Il y en a un 11e, et le 11e, il efface les 10 autres. Et le 11e, dit Saint Paul, ça renvoie. C'est pas la notion de vertu. Le 11e, dit Saint Paul, c'est l'amour. Aime et fais ce que tu voudras, dit Saint Augustin. Aime et fais ce que voudras. Et finalement, aimez-vous les uns les autres, et, comme je vous ai aimé moi-même. Et dès lors que vous avez l'amour au sens de l'agapé, au sens de l'agapé grec, c'est-à-dire de la charité, de la reconnaissance, disais-tu, en un terme plus contemporain et moins marqué, dès lors qu'on a l'amour et la charité qui nous guident, ben, on n'a plus besoin de commandements, on n'a plus besoin de règles. Puisque précisément, ce qui nous anime et notre désir, la façon dont on va s'affirmer dans notre liberté, c'est dans la reconnaissance de l'autre, qu'il soit humain ou non humain. Et finalement, on voit bien que, à la fois, le religieux se sert de la vertu, et après je vous laisse la parole, excusez-moi, je parle trop longtemps, le religieux se sert de la vertu comme un instrument de pouvoir de mise au pas des âmes et des corps, et notamment des femmes, et en même temps, dans les monothéismes, nous pouvons trouver des éléments à partir desquels la transgression émancipatrice, je ne dis pas libertaire, libertaire c'est marqué, la transgression émancipatrice peut être vécue comme une valeur dès lors qu'elle est animée par ce seul commandement qui n'en est pas un, qui est celui de l'amour, de la charité, de la reconnaissance.
Juste à l'égard des hommes.
Pas dans le texte lui-même. Alors, je vous laisse la parole pour dire que vous n'êtes pas d'accord.
Non,
je crois qu'il y avait même deux désaccords.
Je suis pas d'accord. Ouais. Au niveau de... Enfin, j'en sais rien si je suis d'accord, mais...
Après, je ne suis pas non plus exégète. Hein.
Au niveau de la Genèse, je ne suis pas une spécialiste de la religion. Mais au niveau de la Genèse, etc., effectivement, il y a le serpent, effectivement, c'est Dieu qui l'a mis, effectivement, etc. Il y a la transgression, puisque... on ne respecte pas la règle, mais malgré tout, le serpent, si c'est Dieu qui l'a mis, est-ce que ce n'est pas exprès pour provoquer cette transgression et inscrire l'humain dans la faute et garder toujours après la mainmise avec tu enfanteras dans la douleur, etc. Ce qui fait que de toute façon, l'humain a été téléguidé, je dirais. Et c'est une forme de pouvoir de Dieu de garder la main sur l'humain parce qu'il est fautif, il faut qu'il se repente, il faut qu'il se rachète, sinon il est menacé d'enfer, etc. Donc, où est la liberté de l'humain là-dedans? Il croit qu'il a transgressé quelque chose, mais il n'a rien transgressé du tout, en sachant qu'en plus, tout ça, ça a été écrit après coup.
Oui, non, mais ça...
l'amour et Saint Paul, etc., c'est effectivement l'humain qui parle, parce que c'est trop lourd de n'être que dans la main de Dieu et de devoir se racheter toujours.
Et bon, cet amour, effectivement, qui permet d'être libre et de faire que ce que tu veux et que c'est ça qui émancipe, voilà, on a le prix à payer aussi de notre condition et on est mortel, et etc. Donc, moi, je pense que, en fait, la transgression dans la Genèse, elle n'existe pas vraiment, en fait. On place l'humain dans une obligation de désobéissance pour lui faire croire qu'il est libre, mais en fait, on le recueille tout de suite après.
Il y a une entourloupe.
Voilà.
Ah, merci. Moi, j'avais jamais eu cette lecture-là. J'avais jamais eu cette lecture-là. C'est très intéressant. Oui, madame.
Oui, alors moi non plus, j'avais pas cette lecture-là. Moi, je pense que c'est justement Adam et Ève. C'est pas de la transgression, en fait. Enfin, on pourrait appeler ça de la transgression, mais c'était obligatoire qu'ils désobéissent parce que ça participe de l'évolution. Avant de se dire ils deviennent humains, en fait, s'ils n'avaient pas désobéi, il ne se serait rien passé et on n'aurait pas eu d'homme. Et donc, on est obligé, dans certains cas, effectivement, pour évoluer, de transgresser.
Ouais, l'humanité, c'est la transgression.
Voilà.
Un robot obéit. Un robot bien programmé, il obéit ou alors il dysfonctionne, mais on ne peut pas dire qu'il désobéit. Un humain, ça désobéit.
Bah, moi, je voulais revenir à ce que madame a dit. Je ne suis pas d'accord. Choquant. Dans l'Église, je vais prendre l'exemple de l'Église catholique. Jésus, c'est le Fils de Dieu, en grand terme.
C'est même Dieu.
Et oui, c'est Dieu aussi, mais c'est la Trinité, c'est un peu trop compliqué à expliquer là. Oui, c'est la même personne. Non, mais c'est... Voilà, trop de. Voilà. Et il a quand même, enfin Dieu est censé avoir envoyé son fils à mourir pour sauver l'humanité et puis surtout pour mourir pour tous nos péchés, pour que nous on puisse pécher. C'est ça le fondement aussi de l'Église catholique. Enfin je veux dire, Jésus, c'est celui où on lui a amené, les apôtres lui ont amené la femme adultère, pour revenir au corps. Et en fait, les apôtres lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu vas lui faire, faut la punir. Et Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Donc il y a quand même ce fondement, même dans la religion, par rapport à la vertu, tout ça. Déjà, la vertu, aujourd'hui, dans l'Église catholique, elle est égale. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et il faut rappeler aussi que la Bible, elle a été écrite il y a 2000 ans, par des hommes. Donc voilà, c'était pas non plus le même message qui était censé transmettre. Et donc du coup, bah, en fait, c'est pas, enfin pour moi c'est pas cette vision là de pouvoir absolu de Dieu sur les hommes, parce qu'il a été prêt à sacrifier une partie de lui pour nous. Après c'est une vision assez voilà, religieuse biaisée éventuellement, mais oui, voilà.
Ah, deux lectures, mais ouais, bah vas-y.
Oui, je voudrais déborder un peu le cadre de la religion avec un constat. L'animal humain est, à ma connaissance, ou dans ma perception, le seul animal qui ne vit pas comme vivaient ses ascendants. Autrement dit, l'animal humain est dans un, j'ai envie de dire pour simplifier, dans un changement perpétuel, qui est quand même le signe qu'il y a un ordre naturel quelque part qui est transgressé. Donc, effectivement, on peut. Alors, le pouvoir, les pouvoirs qui s'exercent, j'ai envie de dire, ont cette préoccupation de permanence et de conservatisme, de stabilité. Il faut que mon pouvoir doit s'exercer dans le temps.
Il doit se maintenir.
Et l'animal humain, lui, ne va continuer, et, enfin, progresse, on appelle le progrès, ou en tout cas, change perpétuellement dans son mode, dans sa façon de vivre. Donc, il faut bien qu'à un moment, les règles des pouvoirs sont transgressés par ce processus-là.
Je vous laisse réagir. J'ai l'impression que ça vaut pour, à l'échelle de l'humanité ou des civilisations, et à l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'un enfant, il s'affirme dans son identité par la transgression, ou là, en tout cas la résistance qu'il peut apporter à l'autorité de celles et ceux qui ont... Voilà.
Moi, je voulais rebondir sur le fait de le pouvoir, la mamie, c'est-à-dire sur la vertu pour contrôler un peuple. Et je crois bien, c'est mon avis, c'est ça la source de la transgression, finalement. C'est-à-dire que quand on a un pouvoir sur le peuple, en mettant des vertus en face de ce peuple, à un moment donné, ce peuple qui va évoluer dans le temps, quand il va se rendre compte que toutes ces vertus qu'on lui propose, c'est de la poudre aux yeux, il ne va pas se rebeller vraiment. C'est pas une révolution, c'est pas se rebeller contre les vertus, mais c'est rebeller contre la personne qui se sert de ces vertus pour les manipuler quelque part. On l'a bien vu, hein, c'est-à-dire que Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu parce que c'était dans l'ordre des choses, mais quelque part c'était leur manière à eux d'exister. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le film avancé. Finalement, on est fait pour transgresser. Mais, comme vous aviez dit tout à l'heure, il faut que ça se passe pas dans la violence, comme ça s'est passé à la Révolution, mais plutôt par l'éducation. C'est là la responsabilité des gens qui dirigent, par exemple. C'est-à-dire qu'emmener petit à petit une société à évoluer, au lieu de continuer à se servir d'un pouvoir pour maintenir cette population dans l'ignorance, et à un moment donné, cette population qui sera éduquée va faire une révolution ou va chercher à couper la tête à la personne qui détient le pouvoir. Bon, ici, c'est le gouvernement. Donc, c'est cette maturité qu'il faut chercher à apporter au peuple petit à petit pour qu'il n'y ait pas de violence à la fin. Voilà. Une évolution douce de la société vers une vertu, évidemment. Je ne sais pas s'il faut appeler ça une vertu, mais une clairvoyance qui va faire qu'on va plutôt évoluer pour faire quelque chose de bien, quelque chose de plutôt constructif, qui est d'aller plutôt dans la destruction pour obtenir voilà, une autre vision de la vie. Voilà. C'est un peu ma pensée.
Alors, vous avez une citation, une petite phrase très courte, en 3-4 mots, du philosophe Alain, c'est son nom d'auteur. Et Alain, c'est un propos très, très célèbre, qui écrit « Penser, c'est dire non. » Penser, c'est dire non. C'est-à-dire qu'une pensée qui s'affirme elle-même en tant que pensée critique, en tant que pensée personnelle et singulière, qui exprime une identité, c'est nécessairement une pensée qui nie autre chose qu'elle-même, à savoir l'opinion courante, le sens commun, l'autorité. Et finalement, c'est ça peut-être que l'éducation, enfin, pour revenir à cette idée d'éducation et de transgression non violente auquel... à laquelle vous faisiez référence, peut-être que l'éducation, c'est l'apprentissage de cette pensée négative, c'est-à-dire apprendre à l'individu à dire non, à penser négativement, sans, donc à s'opposer, au sens où on s'oppose, on va contre, d'accord, sans forcément détruire. Et finalement, la suite du propos d'Alain, qui me revient un peu à l'esprit comme ça, mais je ne pourrais pas vous le citer de mémoire, il distingue finalement le conflit qui, à ses yeux, est nécessaire. Le conflit, il est constructeur de soi-même ou d'une société. Il parle de destruction créatrice. Le conflit et la violence. La violence, elle détruit. Le conflit, il construit. Mais un conflit qui passe par des échanges d'arguments, qui passe par des échanges de pensées, qui passe finalement par une affirmation de soi avec et contre les autres. C'est peut-être ça, l'éducation. Enfin, l'éducation idéale. J'entends bien sûr.
Oui. Sur les religions, il me semble qu'on regarde l'histoire des religions, il y a eu toujours, certes, il y a l'origine hein, dont vous avez fait état, mais après, il y a eu une adaptation à nos comportements, etc. Mais il y a eu toujours des recherches
d'être encore plus libre. Hein. Actuellement, par exemple, dans l'Église catholique, il y a plein de penseurs qui vont mettre en cause, par exemple, le célibat des prêtres. Hein, par exemple, ça, c'est un moyen de liberté. Par exemple, hein, c'est un exemple, hein, je pense à ça. Mais chez les musulmans, c'est pareil. Hein. Il y a eu, dans toute l'histoire depuis Mahomet, il y a eu toujours des chercheurs, il y a eu toujours des gens d'un certain poids qui ont essayé de rendre plus libre, hein, et pas seulement des règles, hein, de rendre plus libre ces religions.
Oui. Et pourtant, par ailleurs, ce que vous dites est très juste, on a l'impression, pour revenir à la distinction que vous proposiez tout à l'heure, entre la valeur et la règle, que du point de vue de l'autorité religieuse, de ce que vous disiez, vous parliez des religieux, le dogme, l'autorité, la règle dogmatique, le dogme qu'il faut respecter à la lettre, est toujours présenté comme une vertu, et que le rappel au dogme, c'est le rappel à la vertu, donc cette maîtrise des corps et des âmes. Et on a encore dernièrement, je crois que c'était encore hier, avant-hier, vous allez me corriger, le pape François qui prend la parole pour rappeler l'austérité de l'Église à l'interruption de la grossesse, au mariage homosexuel, enfin bref, à toute comment dire, évolution qui pourrait nous sembler, je ne sais pas qui, hein, pas forcément vous, qui pourrait nous sembler comme étant facteur d'émancipation. Voilà. Effectivement, le dogme, c'est on présente comme une vertu pour une sorte de maîtrise du pouvoir. Oui, allez-y, oui. Ah ben.
Oui, par rapport à ce
que... Voilà, enfin, sur les virginités, voilà.
Par rapport à ce que vous venez de dire là, effectivement, ça pose la question du bonheur, en fait. Et l'Esprit des Lumières, c'était ça. C'était le bonheur est une idée neuve sur la Terre. Et comparé au fait qu'avant, le bonheur, ça n'existait pas, a priori, c'était après la mort. C'était le paradis, c'était... Et qu'il fallait en baver sur place pour espérer être heureux après. Et là, quand on dit l'Église qui s'oppose à nouveau... mariage homosexuel, etc., c'est que en fait, c'est
qui impose la virginité,
voilà, ou tout un tas de dogmes, ouais. Justement. Oui. C'est oui. Effectivement un rappel peut-être à la vertu, mais c'est surtout que à la liberté, mais c'est surtout qu'on prend plus en compte du tout qu'est-ce que c'est qu'être heureux, en fait, pour l'individu et a priori pour une société, parce que je pense que quand des individus sont heureux, une société va bien.
Donc, c'est très intéressant ce que vous dites là. Enfin, par rapport à la première intervention, effectivement, on a l'impression que la transgression, non seulement c'est peut-être ce qui me laisse espérer et m'affirmer dans ma liberté, j'ai bien dit ce qui me laisse espérer, hein, mais que, en tout cas, c'est vécu comme la voie directe vers une vie, pour moi, en tout cas, plus heureuse. Effectivement. Je ne veux pas trop monopoliser la parole, je la redonne tout de suite. Avec quand même cette question, enfin, que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur, c'est que le problème, c'est qu'il y a un pluralisme des valeurs. Et pour le dire de manière sans isme, c'est qu'on n'est pas tous d'accord, en fait. Et que, jusqu'où je peux désobéir à la loi commune, la loi de la République ou la loi commune, au nom de mon droit au bonheur. Jusqu'où, finalement, je m'autorise à transgresser la loi qu'on s'est donnée pour vivre ensemble et qui préserve la liberté de chacun, la liberté des uns s'arrêtant à la commence des autres. Bref, jusqu'où, finalement, je peux m'autoriser à transgresser au nom de ma liberté et de mon droit à une vie heureuse, en disant, moi, mon bonheur, c'est ça. Ah bah oui, mais c'est sympa, mais en fait, ça correspond pas exactement à... Je sais pas, moi, dans certaines sociétés, excusez-moi, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément l'exemple le plus pertinent, mais ça me vient à l'esprit maintenant. Dans certaines sociétés, encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr, mais dites premières, l'anthropophagie était pratiquée. Anthropophagie, donc cannibalisme, soit endogame au sein de sa propre communauté, soit exogame par rapport à des peuples ennemis. C'est considéré comme vertueux. Je ne vais pas faire un cours sur les guayaki, mais les guayaki mangent. On mangeait, il n'y a plus de guayaki, ils ont disparu à la fin du XXe siècle. Les guayaki, c'est une civilisation du nord de l'Amazonie qui mangeait leurs morts. Mangeait leurs morts comme rite funéraire. Voilà.
On mangeait tout du mort et chaque membre de la tribu devait manger une partie du mort. Enfin, moi, je ne rentre pas dans les détails. Il était interdit de ne pas manger le défunt. C'est-à-dire quiconque se refuserait à manger un bout du défunt, c'est considéré comme un acte sacrilège. Si moi, aujourd'hui, je vous dis je mange des morts, et mon bonheur à moi, ou ma façon de respecter, c'est de pratiquer un cannibalisme, mais un cannibalisme soft, hein, en de gamme. Si je reprends l'exemple des Guayaki, je devrais, c'est même pas que je pourrais, c'est que ça serait une obligation morale de ma part, et de mon frère également, de manger le corps de mon père lorsqu'il viendra à décéder. Et si je vous dis, pour moi, bercer à la culture Guayaki, la meilleure façon de rendre hommage à mon père, c'est de partager son corps. Je risque d'entrer en conflit avec la loi de la République, parce que c'est illégal évidemment, et sans doute la loi des coutumes. Enfin, je passerai pour un monstre. Et finalement, voilà, c'est-à-dire jusqu'où finalement est-ce qu'on peut s'autoriser. Vous voyez, j'ai pris un exemple un petit peu comme ça, qui me venait à l'esprit. On peut prendre des exemples beaucoup plus directs et sans doute plus communs, beaucoup plus quotidiens. Mais jusqu'où finalement est-ce qu'on peut s'autoriser de transgresser la loi, pour le dire de manière large, au nom d'une revendication de sa vie heureuse.
Oui, mais est-ce que le bonheur...
Dans le micro, maintenant.
Qu'est-ce qu'il dit que être heureux ou le bonheur, c'est un besoin de transgresser? Peut-être que le fait qu'il y ait des règles, qu'il y ait des lois qui s'imposent à des sociétés, c'est peut-être parce que, d'une manière première, ces règles vont rendre heureux aussi.
Bien sûr.
Peut-être que, puisque les règles, c'est les humains qui les mettent, peut-être que il y a toujours des exceptions, des gens qui vont être à la marge, qui ne vont pas supporter certaines règles, etc. Mais on peut imaginer que les sociétés se construisent par des humains qui sont, a priori, au démarrage, pas des dictateurs ou des psychopathes ou je ne sais quoi, qui sont représentatifs de la majorité de ce qu'est l'humain, et que ces règles, justement, garantissent la possibilité à la fois d'être libre et d'être heureux, au sens où il y aurait une sensation de bonheur qui serait commune à toute l'humanité.
Alors, moi, ça n'a plus rien à voir. J'étais sur un sujet d'encore avant, malheureusement.
Oui, oui.
C'est pour revenir à la question de la virginité que j'ai entendue par là-bas, du coup.
La question, pardon.
La virginité dans la religion.
Ah oui.
Moi, tout ce que je voulais, ce que j'ai remarqué, on va dire, c'est que c'est même pas un concept qui s'en tient qu'à la religion, et dans ce cas-là, dans le cas de la religion, je pense que ça s'en tient à la vertu, mais dans la société, et même encore aujourd'hui, c'est plus, ça tient plus de l'a priori, des préjugés de manière générale, parce que, en fait, inconsciemment, ou même pas, ou consciemment d'ailleurs, volontairement même, on impose à une femme d'avoir une certaine, un certain comportement quant à sa propre sexualité, et ça... dépendamment de la religion de manière générale. Je veux dire, j'avais des amis qui étaient les premiers à être là avec leur comportement féministe et tout ça, et puis dès qu'il y en avait une qui, disons une gentildame aux mœurs légères, c'était les premiers à l'insulter. Donc je pense que la virginité dans le cadre de la religion, ça s'en tient à la vertu, mais en fait, elle est encore présente, et même encore plus présente, je trouve, en dehors. Parce qu'en fait, si on rentre dans une église ou quoi, on ne sera pas chassé parce qu'on l'a fait avant le mariage. Alors qu'en fait, dans la société, on peut être même exclu.
Peut même, malheureusement et tragiquement, être tué.
Oui.
Au nom de la vertu et de ses prétendus défenseurs.
Et là où le respect des règles communes.
Dans un micro, monsieur, pour que tout le monde vous entende.
Oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est là où le respect des règles de la société interviennent pour limiter ce genre de comportement qui sont plus de la vertu, du coup.
Oui, mais
qui sont mortels.
mais qui se revendique de... Voilà, c'est ça. C'est
vrai que ce mot fait peur, parce que au nom de ce mot-là, encore aujourd'hui, et en dehors des religions, on revendique tellement de comportements qui sont hors la loi, enfin, je ne sais pas comment on dit, hors cadre, meurtrier, enfin, violent.
Inhumain.
Inhumain, voilà.
Très bien. Oui, hors la loi.
Hors la loi.
Je ne sais pas si quelqu'un veut encore intervenir. Sinon... Oui, c'est ça. Oui, vas-y, oui.
Il me semble qu'on a beaucoup parlé de la transgression sur un mode individuel.
Oui.
Or, la société, elle est quand même composée de groupes. On se reconnaît à l'intérieur de groupes, etc. Et il y a des transgressions collectives. Et à ce moment-là, est posée où est la vertu entre les groupes ? Et comment sont traités les conflits entre les groupes ? Et est-ce que la vertu, justement, ne serait pas de chercher les consentements la concertation, enfin, pas par la concertation, pas par l'échange, d'arriver à surmonter les conflits pour une vie commune ?
À passer du dissensus à un consensus, en fait.
Par exemple.
Donc la vertu, ça serait le dialogue.
Oui, c'est-à-dire là, l'acte vertueux, en fait, serait celui de surmonter les conflits par, effectivement, des démarches vers un consensus.
Alors, dernière intervention, parce qu'il est 20h31.
Je vais être court. Pour moi, mon constat, c'est que la vertu, finalement, quand on emploie le mot vertu, c'est synonyme de manipulation d'une partie de la société. Par contre, quand on emploie c'est des règles, c'est une manière de contrôler la société pour qu'il y ait une certaine cohérence. Voilà.
Donc la vertu, c'est ce qui opprime. Voilà, pour reprendre. Ben voilà, conclusion. Hein. Non, moi, je vais revenir à mes amis les Grecs. Notamment à Platon. Alors Platon, on n'a pas encore parlé de Platon. Donc c'est le maître d'Aristote, donc celui qui disait que la vertu c'est la disposition acquise à faire le bien. Et Platon, alors c'est un texte très célèbre qu'on trouve dans son ouvrage également très célèbre, La République. Et on est au livre 2 de La République, très exactement. Et Platon propose un petit récit, une petite fable. Que vous connaissez sans doute, parce qu'elle est très célèbre. Et donc, cette fable, c'est la fable dite de l'anneau de Gigès. Et Gigès, alors il le met en scène, hein, à travers la parole, la bouche de Socrate. Gigès est un berger qui vit en Lydie, à l'époque. Lydie, c'est en Turquie actuellement. Et bref, Gigès, c'est un berger. Il a une vie comme la vôtre ou la mienne. Il n'est ni bon ni méchant. Il n'a pas d'ambition de devenir dictateur ou maître du monde, ni non plus saint parmi les saints. Et puis, il fait une découverte miraculeuse. Alors, Platon met tout ça en scène, etc. etc. C'est très, très agréable à lire. Il découvre, au détour d'un chemin, en soulevant une pierre, je crois, peu importe le détail, il découvre un anneau magique. Alors, qui sera repris par Tolkien, pour ceux qui connaissent l'univers de Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux. Un anneau magique dont le pouvoir est de nous rendre invisibles. Alors, il met l'anneau à son doigt, et aussi tournez le chaton de l'anneau, et puis vous devenez invisible. Alors, au départ, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis invisible, etc. Et finalement, je vais directement un petit peu à la conclusion et à la morale, de cette fable, mais c'est que va faire Gigès de son pouvoir d'invisibilité. Il a un pouvoir qu'on aurait peut-être tous et toutes, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, rêvé d'avoir. Ah, si j'étais invisible. Bon, après ça donne mille et une fictions. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Et puis, alors, c'est une fable qui est très pessimiste au début de la République, hein, parce qu'ensuite Socrate va essayer de répondre à ce pessimisme initial. Ben, qu'est-ce qu'il va en faire ? Ben, il va en profiter, en fait.
puisqu'il est invisible et qu'il peut s'affranchir du regard des autres, de la sanction possible, de la loi finalement, son invisibilité le rend finalement complètement libre de faire ce qu'il veut, et ben, il va s'introduire dans le palais du roi, il va assassiner le roi, il va voler tout ce qu'il peut voler, il va agresser la reine, il va la violer, pour le dire de manière très claire. Bref, finalement, il va commettre les pires des crimes possibles. Parce que, précisément, il n'a plus le risque de la sanction, de la peine, finalement, de la punition. Point. Fin de la fable. Morale très pessimiste. Vous nous parlez de vertu, vous nous parlez de disposition à faire le bien, vous nous parlez de reconnaissance, vous nous parlez de dialogue, passer au consensus, etc. Moi, ce que je vous dis, là, au début de la République, dit Platon, c'est que l'homme, c'est pas ça. C'est que l'homme, s'il n'est pas tenu en bride, s'il n'a pas la crainte de la sanction, c'est un être qui peut commettre le pire. Et n'importe qui d'entre nous, vous, moi, d'accord, si nous étions aussi invisibles, assurément invisibles, comme Gigès, ben on en profiterait pour transgresser, pour faire ce qu'on veut, pas forcément assassiner le roi et maltraiter la reine, d'accord, mais en tout cas, voilà, pour en tirer profit. D'accord, c'est bien ça l'évasion fiscale. Hein. C'est Gigès sur des comptes en banque. Bref. Et donc, finalement, ce que nous dit Platon, c'est que la justice, ça ne relève pas d'une vertu morale. Le sens de la justice, ça relève, dans cette vision très pessimiste, hein, d'une crainte. Nous ne sommes justes, nous ne respectons les autres avec lesquels nous sommes habitués à vivre et prédisposés à vivre. Nous ne respectons les autres que parce que nous craignons d'en être sanctionnés si jamais nous étions pris en flagrant délit de transgression. Et donc finalement, est-ce que la vertu, ça opprime ? Mais oui, semble nous dire cette petite fable de Gigès et de son anneau qui nous rend invisible. Bien sûr que ça nous limite, mais fort heureusement. Fort heureusement. Heureusement que nous avons cette vertu qui nous opprime, heureusement qu'on a cette crainte, d'accord, d'une sanction possible, parce que sinon, finalement, nous ferions n'importe quoi et nous servirions toujours notre intérêt avant de penser au bien commun. Alors, on pourra en rester là, et ça serait une vision quand même très, très pessimiste de l'homme, ce qui correspond peut-être à la réalité. Voilà, on pourrait vraiment rester là en se disant, bah voilà, merci d'avoir partagé un moment de philosophie, mais en fait, les hommes sont ainsi faits que voilà, la vertu, bon, c'est une vue de l'esprit. Mais on peut aussi reprendre Platon, c'est la deuxième et dernière référence que je ferai à Platon, dans un dialogue alors qui est moins connu, c'est l'un des premiers dialogues de Platon qui s'appelle Eutyphron, pour ceux qui veulent aller voir. Eutyphron, c'est le nom d'un prêtre avec lequel Socrate, qui est le porte-parole de Platon, avec lequel Socrate s'entretient. Eutyphron sort du temple où l'autorité religieuse et l'autorité judiciaire ont siégé. Et Eutyphron, il sort du temple pour une bonne raison, c'est qu'il vient de dénoncer son père. Il vient de dénoncer son père parce que son père, on est dans une société, comme vous savez, Athènes, où il y a des processions, des offrandes, un culte civil qui est un culte religieux, et un bon citoyen se doit de rendre hommage aux dieux, bref, de faire ce qu'il a à faire, d'être pieux. Et Eutyphron vient de dénoncer son père parce qu'il n'a pas participé à la procession, aux offrandes, comme tout bon citoyen athénien devait le faire. Bref, il n'a pas été vertueux, il n'a pas été pieux. Et Eutyphron, qui est un homme pieux, qui se veut vertueux, finalement se dit, bah, même si c'est mon père, je le dois le dénoncer parce qu'en fait, c'est un mauvais citoyen, et un mauvais citoyen doit être sanctionné. Pour la petite parenthèse, le père est sanctionné à mort. D'accord, donc c'est quand même pareil. Et Socrate l'interpelle et lui dit, mais qu'as-tu fait, Eutyphron ? Il dit, t'as dénoncé ton père.
Tu crois que c'est vertueux de dénoncer son père parce qu'il n'a pas participé au culte civil? Et Tryphon dit bah oui, parce que la vertu, ça doit l'emporter sur tout, y compris sur l'amour, le sentiment qu'on a pour l'un de ses proches. Finalement, ce n'est pas mon père, j'ai dénoncé, c'est un mauvais citoyen, etc. Et Socrate a cette formule qui est restée un petit peu en mémoire, en disant, mais finalement, il pose ce dilemme à Tryphon, et il dit, mais finalement, qu'est-ce qui est vertueux? Ce qui est vertueux, c'est ce qui plaît aux dieux, ou est-ce que ce qui plaît aux dieux est vertueux? Je répète, ce qui est vertueux, est-ce ce qui plaît aux dieux? Parenthèse, auquel cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le respect du dogme, de la règle, c'est cette vertu dans les mains du pouvoir. Finalement, les dieux veulent ceci, donc être vertueux, c'est faire ce que les dieux veulent, mais les dieux ne veulent rien. Ce sont les religieux qui font parler les dieux. D'accord? C'est toujours des imams, des prêtres, des pasteurs, des rabbins qui parlent. C'est jamais Dieu qui nous parle. Bon. Du moins, il nous parle à travers le... Voilà. Et donc, finalement, est-ce que la vertu, c'est simplement le respect du dogme et de la règle, mais auquel cas, c'est arbitraire, auquel cas, c'est la maîtrise des corps, auquel cas, ou, ce que laisse entendre Socrate à son interlocuteur Tryphon, est-ce que ce qui plaît aux dieux, c'est ce qui est vertueux? Autrement dit, sous-entendu, ce qui plaît vraiment aux dieux, ce qui est vraiment sacré, c'est pas le respect du dogme, c'est le respect de la vertu, non pas entendu, je reviens un peu à ce que je disais avec Aristote, non plus entendu comme une obligation morale, comme un devoir, comme une contrainte, comme une manipulation, comme une entourloupe, comme un tour de passe-passe, d'accord ? Mais la vertu entendue comme une disposition à être bienveillant avec toute personne. Que ce soit son père, qu'il ait servi ou non le culte comme il le devait, que ce soit ses proches, que ce soit un inconnu, que ce soit même un adversaire ou un ennemi, que ce soit un humain ou même un non-humain. Ça, c'est moi qui l'ajoute, le non-humain. Et donc, vous voyez bien que, finalement, peut-être que ce qui plaît aux dieux, ce que l'on se doit de respecter, ce n'est pas tant le dogme, la règle, que la valeur de la vertu, et me semble, et je rejoindrai la note un petit peu optimiste que tu proposais tout à l'heure, que vous proposiez tout à l'heure, qu'il y a une universalité de la vertu. Il y a un pluralisme des valeurs, on n'est pas tous d'accord. Il y a évidemment une évolution, une relativité des règles. Des règles, il y en a, voilà, ce qui est vrai ici est faux là-bas, ce qui est juste ici est injuste là-bas. Mais il y a peut-être une universalité de la vertu. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui est vertu ou non. On sait très bien que finalement la vertu, ça tient en un seul mot, c'est le respect que je dois à tout vivant en tant qu'il peut. En tant qu'il peut et qu'il doit pouvoir vivre la vie qui est la sienne. Et que dès lors que je maltraite le vivant humain, dès lors que je maltraite le vivant non humain, je sais très bien, je peux me cacher derrière des intérêts, derrière des profits, derrière des obligations, derrière des nécessités, derrière des dogmes et des règles. Je peux trouver mille et une raisons, mille et une causes. Mais dès lors que je maltraite un vivant, un humain, une personne ou un non humain, un être vivant de sensibilité, je sais très bien que je suis en train de porter atteinte à son intégrité physique, morale, que je suis en train de porter atteinte à sa disposition à vivre la vie qu'il souhaite vivre ou que son espèce le conduit à vivre, et je sais très bien que je suis à mille lieues de la vertu. Et que finalement, être vertueux, c'est non pas respecter ce que les dieux me commandent de faire, mais c'est précisément parce que j'aurais été vertueux que s'il y a des dieux, ils pourront un jour me dire ce que tu as fait. C'était la phrase de Badinter quand on lui dit dans le dictionnaire de Pivot. Apostrophe, Badinter est interrogé en disant « Mais qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise à votre mort ?» Et Badinter répondait, vous allez me corriger parce que c'est de mémoire, et je trouve que c'est une très belle phrase, Badinter répondait « Tu as fait ce que tu as pu. » C'est peut-être ça la vertu.
Pour le coup, je pense que c'est vertueux de partager un petit...